il est convaincant dans chacune de ses parties, mais paradoxal dans son tout. C'est-à-dire que, en gros, ce que tu dis d'un côté, dans la description que tu fais des généalogies des deux politiques, autour de cette idée que bah, la participation, ça marche si on y met les moyens, je caricature horriblement, ça paraît effectivement très, très convaincant, jusque d'ailleurs dans les limites que tu donnes aux effets de ces politiques-là. Et en même temps, tu dis, chaque fois qu'on fait de la politique comparée de la circulation, on désencastre les... Donc, est-ce que ça voudrait dire que tu plaiderais plutôt en faveur d'une importation complète de tout le paquet sur le mode, ben, là, pour le coup, ça a marché, et dès lors qu'on prend la cohérence de la politique dans son ensemble, les effets de déformation culturelle liés à chacun des pays sont atténués. Je ne pense pas que tu dis ça non plus. Parce que, en gros, le reproche que tu fais à Borloo, c'est de ne pas avoir importé la totalité du programme britannique.
J'ai bien d'autres reproches à faire à Borloo, mais pas celui-là. Non, moi, je pense, justement, là, je ne suis pas dans une position prescriptive. Hein, vraiment, j'essaie d'essayer simplement de dire, quoi. Moi, je prends acte du fait qu'aujourd'hui, les politiques urbaines fonctionnent sur ce registre des circulations. Mmh. Et simplement, j'attire votre attention parce que vous êtes aussi des acteurs, des exportateurs, des importateurs. Vous allez voir ce qui se passe à Rotterdam, ce qui se passe ailleurs. J'attire votre attention sur le fait que c'est intéressant. Quoi. Ça fonctionne comme ça, on trouve des idées comme ça, mais il faut savoir que quand on importe des éléments, des idées, on importe toujours des éléments partiels, extrêmement partiels. Il faut simplement être conscient et, je dirais, être stratège dans son importation, en sachant que ça produira de tout autres effets, et peut-être avoir, dès lors qu'on a intégré ça, peut-être aussi avoir des réflexions un peu stratégiques, voire prospectives, sur, en étant conscient du fait qu'on va importer que des petits éléments, que ça ne produira d'autres effets, et s'intéresser peut-être justement au type de recombinaison, d'hybridation que ça peut produire. L'idée d'une importation globale me semble un peu impossible conceptuellement et opérationnellement.
Oui, alors il y a Pascal.
J'ai une question très simple, c'est quel rôle peut jouer l'Europe dans cette politique de la ville? Est-ce qu'elle peut harmoniser justement des politiques de la ville?
Pascal, vas-y.
Une question plutôt un constat. Est-ce qu'il n'y aurait pas, est-ce qu'il y a la forme des conseils citoyens, les conseils de quartier, les conseils de ceci et de cela, et en réalité au quotidien, par tout ce que je connais avec mes équipes, il y a négociation permanente. Les équipes projet sont en négociation permanente avec des associations locales, avec des groupes d'habitants. Pour Lyon, il y a quand même 273 locaux quand on cumule le conseil municipal et le conseil d'arrondissement. C'est-à-dire qu'ils sont trois fois plus nombreux que nous. Et pour les actes, il y a également tout un processus de concertation en amont. Il y a de multiples comités de suivi de ceci ou de cela. Donc en réalité, je n'ai pas fait le calcul, mais je pense que le temps consacré par les équipes projets, mais aussi par les élus locaux, à de la concertation, à des négociations, est sans doute beaucoup plus élevé qu'il n'y paraît si on ne prend que la réalité des réunions de conseils citoyens, qui d'ailleurs chez nous n'existent pas encore. Donc est-ce que finalement, il n'y aurait pas un arbre qui cache la forêt quant à la concertation et à la participation véritable des habitants?
Sur ces deux points, alors, je vais commencer par la dernière, je reviendrai sur la question européenne. Oui, sans aucun doute, le tableau que j'ai fait en introduction à la hache sur l'absence de participation, l'échec de la participation, c'est vraiment à la hache. Évidemment, il y a de multiples pratiques, il y a des diversités des choses, et encore une fois, je renvoie à la compte de Loïc Blondiot qui rentrera plus. Mais malgré tout, je voudrais remonter sur les termes que vous avez utilisés. Moi, ce que avec le propos autocritique que j'ai pu faire, c'était moins sur la concertation que sur l'implication ou l'empowerment. Parce que ce qu'on peut dire globalement sur la participation à la française, c'est que ça a toujours été une participation sur le registre ou bien de la concertation ou bien sur l'implication dans le micro-projet. Et que les stratégies d'empowerment telles qu'elles peuvent se développer dans le cadre du NDC ou outre-Atlantique ce sont des stratégies de quasi-délégation du pouvoir. De ce point de vue-là, et c'est vrai que chez les théoriciens de la participation, il y a explicitement ou implicitement une forme de hiérarchisation où il y aurait une participation trompe-l'œil qui serait de l'ordre de la concertation, vous soumettez votre projet, vous me dites ce que vous pensez, et une vraie, une absolue participation qui serait là, de l'ordre de la totale délégation de pouvoir avec toute une série d'échelons entre les deux. Et c'est vrai que votre question m'amène à l'expliciter. Peut-être que implicitement, j'ai jugé les démarches participatives de la politique de la ville française à cette zone-là. Et ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas aussi des démarches de concertation plus ou moins abouties, suivant les villes, suivant les procédures.
Sur la page. Juste un point là-dessus, quand même, si tu me permets. Ce que tu dis en introduction à propos de Jeanne Villiers, c'est pas ça. Oui. Puisque, au fond, de ce que j'ai compris, les jeunes gens issus d'immigration qui font de l'offre civique, d'implication civique, ils ne demandent pas une délégation de gestion sur le territoire, etc. Ils demandent plutôt, d'après ce que j'ai compris, une forme de reconnaissance qui peut se traduire, par exemple, par des itinéraires d'intégration politique via les élections, via les partis, etc., etc. Et c'est peut-être là que le bas blesse aussi. Alors, cela dit, tu es assis à la place de Ali Zahi, qui est vice-président aux finances de la communauté d'Est Ensemble. Donc, il y a quand même un exemple, si je peux dire, du fait que la classe politique française commence à s'ouvrir un tout petit peu au-delà des postes traditionnellement dévolus aux enfants d'immigrés. En fait, il y a tout type de spécialisation. Il y a les postes spécialisés pour les femmes et il y a les postes spécialisés pour les enfants d'immigrés. Pour les femmes, on est plutôt du côté santé, affaires sociales, etc. Pour les enfants d'immigrés, c'est sport, politique de la ville, prévention de la délinquance. Et coopération décentralisée. Voilà. Alors ça, c'est en train d'évoluer. Donc Ali Zahi, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est un ancien éditeur de l'IDAT, est vice-président aux finances de la communauté, enfin du territoire de l'Est-Ensemble. Voilà, je préfère vous.
On pourrait revenir sur le concept américain de tokenisme, ça c'est peut-être un autre débat. Sur la question européenne, alors poser la question sur quel pourrait être le rôle de l'Europe, vu l'État. Pardon ?
La commissariat à la ville.
Oui, alors la question de ce que pourrait être le rôle de l'Europe sur les politiques urbaines comme sur toute politique dans la période actuelle, c'est quand même un peu compliqué de l'interroger. Moi, si je regarde rétrospectivement, quel a été le rôle de l'Europe dans les politiques urbaines et développement social urbain ? Fondamentalement, l'Europe a été, pour reprendre une expression de Radaïli, mass exchange platform, une plateforme massive d'échanges d'hectares. Ce qu'a fait l'Europe dans le domaine des politiques urbaines, c'est organiser cette circulation d'expériences, la diffusion d'un certain nombre de mots d'ordre, de pratiques, d'instruments, à la fois à travers les programmes urbains, parce que dès lors qu'on s'intégrait dans les programmes urbains, ça a obligé toutes les villes françaises à développer toute une série de pratiques et d'instruments qui leur étaient pas du tout familières, des systèmes de reporting, des choses comme ça. Parce que la politique urbaine de l'Europe, c'est aussi massivement la création de réseaux de villes dans lesquels des professionnels, des grandes, des petites moyennes, des petites, peu importe, de tous les niveaux, vont passer leur temps à aller voir ce qu'on faisait en Angleterre, ce qu'on faisait aux Pays-Bas, ce qu'on faisait en Espagne, et ce qui a produit notamment le fait que un peu partout en Europe, on ne sait pas dire, on retrouve les mêmes mots d'ordre. C'est vraiment intéressant de voir qu'alors même que quand on regarde concrètement les politiques sont très très différentes, mais vous avez des buzzwords, des mots d'ordre comme ça qui sont les mêmes partout. Et à certains égards, alors on pourrait dire les choses positives, quoi. Il y a deux manières de regarder, ou bien on dit que finalement l'Europe a vraiment fonctionné sur ce registre du renouvellement des pratiques, de la circulation des expériences, de la diffusion des bonnes pratiques, et il y a un peu de ça. Mais on peut dire aussi que l'Europe a aussi fonctionné d'une certaine façon comme la production d'un voile de fumée. Parce que ça nous donne les mêmes mots pour décrire des réalités totalement différentes. Et qu'on a l'impression de se comprendre, on a l'impression de savoir ce qui se passe ailleurs, et en fait, non, parce qu'on a des mots qui nous masquent la réalité des pratiques.
Oui, vous disiez que ça s'est arrêté en 2008,
et quelle a été depuis l'évolution de la politique, enfin, de l'effet des villes, enfin, comment les villes ont vécu depuis que ça s'est arrêté. Est-ce que ça va moins bien, docteur, ou est-ce que ça n'a rien à rien, quoi, c'était pareil.
Tu as vu Rotterdam et Amsterdam.
Alors, pour les villes néerlandaises, je ne peux pas vous dire, moi je n'ai pas travaillé là-dessus, je n'ai pas lu de travaux là-dessus, donc je ne sais pas.
Les villes ont pris le relais de l'État, finalement.
Oui, si ce n'est que la structure budgétaire néerlandaise est très particulière, parce que les villes dépendent quasi intégralement des dotations de l'État. Comme je ne vous hasarderai pas. Dans le cas des villes britanniques, alors, il y a deux manières de répondre. La première manière de répondre, c'est de dire regardez les émeutes. Regardez les émeutes de 2011. Mais ça, c'est une fausse réponse. La vraie, la meilleure réponse, c'est sur la base des études, notamment du Joseph Rowntree Foundation, une sorte de. Je sais pas, c'est. L'Abbé Pierre puissance 10, et qui a pris le relais. Voilà. C'est Abbé Pierre plus Observatoire national de la pauvreté plus Observatoire national des US. Voilà. Qui produit toute une série d'études très 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 reconnues et très très fines, et qui nous montre deux choses. Première chose, c'est que depuis 2008-2009, on a assisté à un décrochage, un double décrochage. Premier décrochage, c'est entre les villes du Nord et les villes de Londres, voilà, vite. Qui était déjà, c'est-à-dire la tendance lourde du Royaume-Uni depuis 1980, mais qui s'était, la dynamique divergente avait pris fin dans la décennie 2000. Ça n'avait pas eu un raccrochage massif, mais au moins cet effet ciseau avait disparu. Ce qu'on observe depuis 2008, et alors à ce point de vue-là, c'est, vous prenez une carte des résultats du référendum sur le Brexit, c'est la traduction de ça, c'est vous avez Londres et le Sud qui va bien. Et y compris dans les quartiers pauvres, où il y a un effet spillover, le développement bénéficie plutôt, y compris aux pauvres. Et vous avez toutes les villes du Nord, sans exception, toute l'Angleterre du Nord, qui bascule. De manière massive, des niveaux de concentration de pauvreté absolument massifs. Deuxième, c'est à l'intérieur des villes, à l'intérieur des villes du Nord. Alors là aussi, un deuxième décrochage avec les quartiers les plus pauvres qui connaissent des situations absolument. Enfin, alors que l'évolution avait été positive, on était dans un resserrement des écarts. Là, on est dans un accroissement extrêmement spectaculaire. Extrêmement spectaculaire des écarts avec des niveaux de concentration de la pauvreté qui font frappant de quand vous regardez les situations des quartiers pauvres à Bradford, dans toutes les villes minières du Nord, on est dans des situations qui font vraiment frappant.
Même Glasgow, j'ai entendu, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais je crois que c'est vrai que dans certains quartiers, on avait calculé l'espérance de vie qui tournait autour de 50 ans, etc. Expérience moyenne de vie, du fait de l'alcoolisme, conditions d'hygiène, la surmortalité masculine, etc.
Oui. Bonjour, Claire Alléguette du Commissariat général à l'égalité des territoires, mais plus particulièrement Mission Affaires européennes. Je voulais juste compléter par rapport à tout ce qui était européen. Donc, il faut pas oublier que la DG Région, qui s'occupe notamment du Fonds FEDER, s'appelle aussi DG Région et Urbaine. Donc, ce qui n'est pas rien, et l'ancien commissaire Johannes Hahn était très fervent de tout ce qui était urbain avec la mise en place de l'un jardin urbain qui est repris très fréquemment par les différentes présidences de l'Union européenne et qui vraiment est très activé. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue du financement, parce que c'est aussi important, le règlement FEDER oblige pour les programmes de la période 2014-2020 FEDER à utiliser 5% au titre du développement urbain intégré. Alors bien évidemment, comme vous le disiez, tout le monde n'a pas la même définition du développement urbain intégré selon les États membres. Ce règlement FEDER qui impose à toutes les autorités de gestion, ce qui a été acté en France, donc il y a eu une convention passée entre le ministre de la Ville de l'époque et le président de l'ARF de l'époque, Lamy Rousset, qui demande en fait aux autorités de gestion, d'un point de vue national français, de dépenser et de consacrer 10% de leur budget FEDER plus FSE, donc Fonds européen de développement régional et Fonds social européen, à l'outil de la politique de la ville. Donc c'est vrai que ça transforme un petit peu la donne, mais je voulais compléter cette information. Donc, voilà, donc sachant que selon qu'on soit en Ile-de-France ou dans le Limousin, atteindre les 10% n'est pas nécessairement aisé, mais bon, c'est un pourcentage national. Voilà, donc c'était pour compléter les propos sur la politique européenne et les financements en fait, hein, parce que voilà, c'est plus une matière en tout cas de mon côté à l'aspect financement.
Oui, je voulais juste préciser un point, tu l'as esquissé à un moment donné, c'est qu'entre France, Pays-Bas et Royaume-Uni, la situation, le rapport État-collectivité locale est quand même très très différent, parce que bon, en France, grosso modo, enfin, je peux dire de bêtises, je parle sous ton contrôle, mais en moyenne, les finances locales dépendent pour à peu près la moitié des transferts d'État, un peu moins de la moitié, 48%, 50%, quelque chose comme ça.
Ça dépend des collectivités.
Ça dépend des collectivités, effectivement. En Angleterre, c'est 70% des budgets qui sont sur transfert de l'État. Et à la différence de chez nous, c'est des dotations globales. En Angleterre, au Royaume-Uni, ce sont des subventions, des transferts fléchés. Éducation, santé, sécurité, etc., etc. En réalité, les collectivités locales britanniques gèrent ce que nous on appellerait les services déconcentrés de l'État, l'éducation nationale, etc., etc. Donc, c'est en fait, on dit collectivité locale, mais ces deux organes totalement différents. Enfin, dans un cas, on a quelque chose qui est intermédiaire entre une collectivité locale à la française et un service déconcentré de l'État, tandis qu'en France, on a des entités qui ont évidemment des obligations légales, etc., mais qui co-gèrent le territoire en partie avec les services de l'État. D'où la question d'ailleurs des objectifs planchers, qui ne se jouent pas du tout, évidemment, de la même façon quand on s'adresse à des collectivités locales dont on tient les commandes de la bourse, ou quand on s'adresse à cette double commande collectivité-service déconcentré de l'État.
Peut-être juste pour compléter, tu as raison sur ce point, et pour rebondir sur la question aussi du rôle de l'Europe, quand on regarde le Royaume-Uni, si on veut comprendre les rapports financiers entre l'État et les collectivités, il y a non simplement la question du pourcentage, la question de l'autonomie fiscale, pour reprendre les termes français, mais il y a la question des modalités de l'allocation budgétaire. Et qu'il y a eu une évolution en Grande-Bretagne depuis John Major qui a vu que des dotations qui étaient faites, qui pouvaient être pour partie globalisées et pour la majeure partie fléchées, ont été progressivement remplacés par des appels à projets compétitifs, où l'argent de l'État est donné par une mise en concurrence des territoires pour l'accès à ces budgets. Et c'est un système qui, par ailleurs, s'est généralisé à l'échelon européen dans toute une série de programmes européens, et désormais devient quasiment la norme pour l'allocation des budgets d'investissement de l'État aux territoires. Il y a bien des débats, là, non, prend une place croissante dans les budgets de l'État à nos territoires. De ce point de vue-là, s'il y a bien un processus d'européanisation, d'échange et de circulation, mais il ne se joue pas que sur les bonnes pratiques, les échanges, mais aussi sur des instruments lourds qui structurent les relations entre l'État et les territoires.
Une dernière remarque pour la route.
C'est devenu une tradition.
Moi, je suis un peu gênée, simplement parce que je trouve que vous l'avez peut-être fait avant, mais je trouve que dans ce débat, on manque un peu de points de repère conceptuels, quand même. Alors, vous l'avez fait, là, un petit peu sur participation, concertation, etc., mais il me semble quand même qu'on aurait besoin, puisque c'est le thème qui nous rassemble, d'avoir à la fois, de savoir effectivement à la fois de quoi on parle, parce que dans ce système-là, il y a des choses et des pratiques extrêmement différentes, et puis derrière, des objectifs, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui m'a frappé, vous avez dit, est-ce que la participation a atteint ses objectifs? D'une certaine manière, on peut presque se demander, est-ce que le statut de la participation, c'est un moyen? Est-ce que c'est pas une fin? Une fin politique? Donc là, on est dans des... Enfin, il me semble que... Et par ailleurs, il y a aussi, je dis, les objectifs avoués et inavoués, parce que dans l'exemple de Jeune Villiers, ce que j'entends, enfin, j'entends ça, mais enfin, je tire un peu, mais d'une certaine manière, la participation, c'est peut-être aussi un moyen de ne pas faire participer aux structures de pouvoir de droit commun. Donc, il me semble que sur toutes ces questions, ce serait bien qu'on essaie d'avancer dans les jours suivants. Enfin, moi, je me sens un peu en demande de clarification de ceci.
C'est tout l'enjeu de vendredi, avec l'intervention de Loïc Landriot, une intervention bilan des conseils de quartier, et suivie d'une discussion collective sur le sujet. On a choisi effectivement de ne pas partir sur des définitions a priori, peut-être d'entrer un peu dans le vif du sujet comme ça, mais tu as tout à fait raison de poser la question, parce qu'à un moment donné, il y a des définitions canoniques, alors je ne sais plus qui est-ce qui a fait, il y a toute une série de propos, de propositions d'échelle, de participation.
Sherry Einstein.
Ah voilà, c'est ça, des définitions canoniques depuis la consultation jusqu'à je ne sais pas quoi. Ouais. Mais ce qui est plus intéressant, c'est ce que tu dis. C'est à quoi ça sert, en fait. C'est pas le côté normatif de l'objectif, etc. C'est plutôt comment est-ce que ça s'inscrit et dans quel rapport avec les structures de pouvoir existantes, installées, électives, représentatives. Et alors ça, on sort de justement là pour le coup, on sort du registre des bonnes pratiques et de la normalisation à l'européenne. Et on passe là pour le coup dans l'analyse de sociopolitique des modes d'exercice du pouvoir local. C'est là que moi je suis d'accord avec toi, c'est des choses qui deviennent intéressantes, vraiment intéressantes.
Mais à ce moment-là, on pourrait partir dans l'autre sens, c'est-à-dire commencer par les objectifs, et puis c'est de remonter aux pratiques politiques qui sont les plus adaptées pour viser les objectifs qu'on se donne. Plutôt que de partir des pratiques de consultation et puis de voir si elles remplissent ou pas parce qu'elles...
Si je peux me permettre de m'immiscer dans le débat, qui est important, et je pense que Loïc Landriot est vraiment la personne qu'il vous faut pour répondre à cette question, mais en réalité, on s'en sort pas en rentrant par les objectifs, parce que quand on fait la liste des objectifs qui sont imputés à la participation des habitants, des espoirs qu'il y a là-dedans, on se rend compte que c'est renouveler le personnel politique, résoudre la crise démocratique, réalimenter d'une nouvelle expertise, d'usage.
Tout dépend des projets, non, oui, non. En termes d'équipement public, en termes d'aménagement de quartier ou de requalification d'espace public, c'est vrai qu'une concertation, une co-construction avec les usagers semble vraiment fondamentale dans la programmation urbaine, quoi. Donc tout dépend des échelles et tout dépend aussi des projets.
Ce que je voulais dire, c'est justement quand on fait la liste des objectifs qui peuvent être...
Il faut moduler.
Et que la question, c'est que d'ailleurs, dans le cas de la politique de la ville, ce qui me semble être un des problèmes avec la politique de la ville française, c'est qu'on n'a jamais spécifié ce qu'on attendait de la participation. Et que le mot, chacun peut projeter énormément de choses derrière, et que au final, ça fait qu'on a abouti à la situation que c'est là, qui est celle d'une déception permanente.
Sauf cas d'espèce, effectivement, d'expérience de pratique locale, très localisée, telle programmation d'équipement.
Il y en a plus qu'on ne le pense. Il y en a beaucoup plus qu'on ne pense. Oui. Tout à fait.